voix marseillaise. Aujourd'hui, dans l'émission Voix marseillaise, on va aborder avec mes invités le syndrome de Diogène et l'incurie. Vincent Clarac, éducateur spécialisé, Delphine Lissajou, psychologue, et Timothée Rérault, l'infirmier, font partie de l'EDI pour équipe Diogène et incurie. Il est rattaché à la coordination marseillaise en santé mentale et habitat. Le syndrome de Diogène se traduit par l'accumulation obsessionnelle d'objets divers et variés, rendant le logement de plus en plus difficile à habiter. L'incurie pousse les personnes qui y sont frappées à se négliger de façon durable sur le plan physique. Ces deux pathologies ont pour conséquence de couper la personne de l'extérieur. Elle s'isole de plus en plus et c'est là qu'intervient l'EDI, dont le rôle est précieux et très souvent salutaire. Est-ce que vous pouvez d'abord me présenter la coordination marseillaise en santé mentale et habitat, Vincent Clarac?
La coordination marseillaise santé mentale et habitat est un groupement de coopération médico-sociale. C'est un statut juridique particulier qui est fondé sur la mise en commun de moyens par différentes institutions, donc différents membres de ce groupement de coopération qui sont la mairie de Marseille, la métropole, des pôles psychiatriques Édouard Toulouse et Valvert, des associations diverses, des bailleurs HLM, voilà, donc c'est différents acteurs de terrain qui se regroupent pour répondre à des missions de service public, on va dire, et monter répondre à des projets, voilà.
Et donc votre équipe, l'équipe Diogène et incurie, donc elle appartient à cette coordination. Et est-ce que vous pouvez me dire un peu comment vous travaillez ? Timothée Rérault, vous êtes infirmière.
On nous présente des fiches de situation que les gens trouvent sur le site de la CMSMH. Et donc n'importe qui peut remplir cette fiche, que ce soit des voisins, des bailleurs, de la famille, qui nous présente le cas qui dérange, entre guillemets, parce que c'est souvent dans ce cadre-là qu'on nous signale une situation. Et lorsque les réseaux en santé mentale reçoivent cette situation, à eux de nous la présenter si ça rentre dans notre cadre d'action. Donc les situations d'incurie assez sévère ou de Diogène, dans tous les cas, des situations d'accumulation d'objets dans le logement. Dans un premier temps, nous, une fois qu'on aura pris en compte cette situation, on fera une évaluation pour constater quelle est la situation dans la réalité. Si on peut, ça rentre dans notre cadre, dans notre champ d'action. Voilà. Ensuite, il y aura plusieurs étapes dans notre mode de fonctionnement. C'est-à-dire que la première étape est non négligeable. Ça va être de prendre contact avec la personne qui, elle, n'a rien demandé, en l'occurrence, qui jouit de sa liberté d'habiter, hein, même s'il y a des nuisances autour. Et voilà, donc on va vouloir prendre contact avec cette personne, ça peut prendre du temps, créer un lien, établir la communication, un lien de confiance. Cette étape, la première, peut être très longue. Une fois qu'on aura établi ce lien avec cette personne, on va pouvoir répondre à certains de ses besoins d'abord, et ensuite pouvoir intervenir sur le logement une fois que la personne sera prête à le faire et dans sa temporalité.
Vous êtes combien dans cette équipe, Vincent Clarac? Donc vous, je le rappelle, vous êtes éducateur spécialisé.
Nous sommes 5 à composer l'équipe. Donc moi, je suis éducateur spécialisé. Timothée est infirmier. Delphine est psychologue. Nous avons également une collègue conseillère en économie sociale et familiale. Donc c'est un autre diplôme du travail social. Et un collègue médecin psychiatre qui est mis à disposition par l'hôpital Valvert une journée par semaine. Et nous avons également une coordinatrice, voilà, qui occupe des fonctions de chef de service de notre équipe.
Vous suivez combien de personnes ?
On suit en suivi qu'on appelle intensif une trentaine de personnes. Il faut savoir que ce sont des accompagnements qui nécessitent de prendre beaucoup de temps. Timothée l'a expliqué tout à l'heure, beaucoup de temps pour entrer en contact avec la personne, pour créer une relation de confiance. Déjà, ça c'est beaucoup de temps et d'énergie. Et une fois que la confiance est là, des actions sont possibles. Et là aussi, étant donné que les situations sur lesquelles nous sommes amenés à intervenir sont complexes et souvent très dégradées, ça nécessite énormément de temps pour le coup d'action et d'accompagnement auprès des personnes. 4 équivalents temps plein, 30 situations d'accompagnement intensif, c'est déjà beaucoup. Et en plus de ça, on est financé en tout pour 60 accompagnements, donc on a 30 autres places d'accompagnement qu'on ne consacre pas à du suivi en direct, mais à du soutien aux professionnels de par une instance qui s'appelle les réseaux santé mentale et habitat, qui est également portée par la coordination marseillaise santé mentale et habitat. Donc on participe à des réunions plénières qui réunissent beaucoup d'acteurs de la santé mentale et de l'habitat sur les différents territoires de la psychiatrie à Marseille. Donc on fait du soutien aux professionnels au cours de ces réunions plénières, mais également on fait de l'orientation ou de la réorientation de situations pour des professionnels qui nous interpellent parce qu'ils sont en difficulté dans l'accompagnement de personnes. Donc en gros, c'est 30 en accompagnement direct, intensif, et 30 autres sur du soutien et de l'appui aux professionnels. Et il faut savoir qu'on propose également une sensibilisation, un temps de sensibilisation. Alors, on n'appelle pas ça une formation, mais c'est une sensibilisation aux questions de Diogène et d'Incurie à destination des professionnels du territoire. Donc, ça dure une demi-journée et on fait ça tous les 2 mois. Et au cours de ces séances de sensibilisation, on échange avec des professionnels qui sont en difficulté également sur des situations ou qui présentent de l'intérêt pour ces problématiques. Et on constate, de par les retours, qu'il y a une réelle montée en compétences de ces professionnels qui, à leur tour, sont peut-être plus à l'aise pour intervenir par la suite.
Alors, pour le grand public qui ne connaît rien, comment on pourrait définir le syndrome de Diogène et qu'est-ce qu'on entend par incurie ? Timothée ?
On s'applique à différencier le Diogène de l'incurie, ce qui peut être amalgamé assez simplement parce que dans la présentation, ça peut se ressembler. C'est-à-dire que les gens, en tout cas, vont nous prévenir, vont nous alerter au moment où il y aura, comme on l'a dit tout à l'heure, une accumulation d'affaires, de choses, de déchets dans un logement, voire en dehors du logement, ce qui va poser problème aux gens. Et là, ce sera défini comme étant du Diogène de la part de tout le monde, parce que c'est l'image qu'on s'en fait. Nous, on va ensuite aller vérifier sur place, de savoir s'il s'agit effectivement d'un syndrome de Diogène, ce qui n'est pas la majorité des situations dans lesquelles on travaille finalement, ou d'incurie. L'incurie qui va plutôt se présenter sur une accumulation passive des objets, c'est-à-dire avec une incapacité à s'en débarrasser sans la volonté de les collectionner, de les garder. Cette différence est très importante. Nous n'aurons pas la même action. On sait que dans le cas d'incurie, une fois qu'on aura réussi à créer ce fameux lien avec la personne et qu'on aura commencé à pouvoir envisager de débarrasser un logement, on y arrivera. Dans le cas du syndrome de Diogène, c'est plus difficile parce qu'il y a une vraie fonction et une vraie volonté de posséder ses affaires. Et donc, on n'arrivera pas à débarrasser le logement aussi facilement puisque chaque chose a sa place et son rôle.
Pourquoi on l'appelle le syndrome de Diogène ? Est-ce qu'on peut rappeler un peu qui était Diogène ? Vincent Clarac.
Diogène, on n'est pas spécialiste de philosophie. Tout ce qu'on peut dire, c'est que c'est un philosophe grec antique. Pourquoi est-ce que le nom Diogène a été associé à ce qu'on peut observer dans ces situations? Ça, je ne sais pas. Ça date de 1975. C'est un gériatre anglais qui s'appelle le docteur Clark qui a posé ce nom-là. Ça paraît un petit peu arbitraire. Le lien qu'on peut faire, enfin que moi je peux faire, ça m'appartient, dans une certaine forme de radicalité, tout du moins, puisque Diogène de Sinope, donc le philosophe grec, se caractérisait par un refus des conventions, un refus d'étachement de tous les biens matériels, et une très grande forme de radicalité que l'on peut retrouver, alors pas le détachement des biens matériels bien sûr, mais la radicalité qu'on peut retrouver chez certaines personnes sur lesquels on appose l'étiquette de syndrome de Diogène. Timothée en parlait tout à l'heure dans les différences entre l'incurie et le syndrome de Diogène. Effectivement, l'incurie va être plus passive. Ce sont des personnes qui se laissent déborder. Il y a un certain abandon du soin apporté à soi qui s'installe progressivement et qui va, on va dire, contaminer tous les aspects de la vie de la personne. Dans le syndrome de Diogène, ou ce qu'on appelle le syndrome de Diogène, il y a une forme de positivité, une démarche active et revendiquée. Vraiment pour être dans les grandes lignes, c'est ça qui va marquer la différence. D'un côté, quelque chose d'un abandon très passif, et de l'autre, quelque chose de revendiqué avec un refus de toute aide et d'être en lien.
Dans l'histoire de Diogène, il y a ce moment où, alors qu'il vit dans un tonneau et qu'il se débarrasse de la seule écuelle qu'il a, quand il voit qu'il peut boire sans rien, il y a Alexandre le Grand qui vient le voir parce qu'il est fasciné par ce personnage dont il entend parler et qui vient le voir en lui demandant qu'est-ce qu'il peut faire pour lui et qui lui aurait répondu « ôte-toi de mon soleil ». Voilà, c'est peut-être pour ça que ce terme de Diogène a plu à ce moment-là au docteur Clark, parce que c'est un peu ce qu'on peut retrouver chez certaines personnes vers lesquelles on va, qui en gros nous disent « laissez-moi vivre simplement comme moi j'ai décidé de vivre, j'ai besoin de rien ni de personne ».
Est-ce que vous pouvez expliquer qu'est-ce qui fait basculer quelqu'un dans ce syndrome, dans cette incurie ? Est-ce que vous, dont vous êtes psychologue, Delphine Issajou, est-ce que vous avez maintenant une idée un peu précise ?
Précise, non. Et puis basculer, c'est pas sûr. Basculer, ça voudrait dire qu'il y a un avant, un après. Et aujourd'hui, l'état de la connaissance ne permet pas d'affirmer quoi que ce soit sur ça. C'est-à-dire qu'on peut faire des hypothèses, il y a des pistes de travail qui sont faites, mais avoir une réponse précise, bah, ce n'est pas le cas. Donc nous, ce qu'on peut faire, c'est témoigner de notre pratique, des choses qu'on a pu observer auprès des personnes avec lesquelles on travaille. Donc dans les choses qu'on peut observer, il y a des choses qui ont été décrites dans la littérature, à savoir qu'il peut y avoir une démence associée, par exemple. Il peut y avoir un trouble psychiatrique associé. Il peut y avoir des problèmes attentionnels, des problèmes cognitifs. Voilà, ça c'est des choses qu'on observe effectivement, mais qui à eux seuls ne permettent pas d'expliquer l'ensemble du comportement. Donc ça permet d'outiller un peu la réflexion et aussi la pratique, mais ça ne permet pas de dire, voilà, il y a une bascule, il y a un avant, un après, un peu comme vous disiez. Dans les choses qu'on note aussi, c'est plutôt une progression, plutôt qu'un avant, un après, c'est-à-dire des situations souvent qui sont installées depuis fort longtemps. Certains même auteurs dans la littérature disent dès la préadolescence, où il y a comme ça, gentiment, une accumulation, mais qui ne gêne absolument personne et qui est régulée parce que la personne est occupée, elle n'a pas que ça à faire, qui est régulée parce qu'il y a d'autres personnes autour qui sans doute font un petit peu de tri aussi. Et donc ça peut passer tout à fait inaperçu, en fait. Hein. On peut très bien avoir ce comportement-là sans que ça pose aucun problème. Et en fait, en soi, le syndrome de Diogène ne pose pas toujours de problème. Il va poser de problème à partir du moment où il va manquer d'espace, parce que l'espace va être trop petit pour accumuler les affaires qu'il souhaite y mettre, et où le voisinage va manifester une intolérance à ce mode de vie. Mais bien souvent, au cours du temps, donc, comme je disais, la personne peut accumuler, avoir suffisamment d'espace et un voisinage suffisamment tolérant et bienveillant pour que personne ne disent tout d'un coup il y a un syndrome de Diogène. Or, ce qui se passe, c'est que c'est les observations qu'on fait à la rencontre d'événements de type perte de travail, perte du conjoint, deuil, voilà, de différents types successifs, en fait, il va y avoir un emballement de ce process. Hein, ça peut être quelque chose de très logique, finalement, quand on y pense. Quelqu'un qui accumule gentiment chez lui, mais qui a un travail, il n'a pas que ça à faire d'accumuler, puisque le reste du temps, il est au travail. Donc, minimum 8 heures par jour, il n'accumule pas. Qui a une épouse et qui contribue à l'entretien du logement, là aussi, l'accumulation peut être tout à fait régulée. Si cette même personne perd au fil du temps son épouse, qu'il perd son travail, pour les raisons X ou Y, hein, ça peut être simplement mise au chômage, ou retraite, et tout d'un coup, il dispose de temps. Il dispose d'espace et d'une énergie supplémentaire aussi, liée parfois au trauma que peuvent représenter les pertes, pour accumuler. Il peut aussi, encore une fois, continuer à accumuler très longtemps, Parfois, ils accumulent même jusqu'à la mort sans que personne n'ait rien su, puisqu'on découvre parfois, au hasard d'un voisinage, qui va signaler qu'il y a quelqu'un qui est décédé. Et les pompiers vont arriver, vont voir qu'effectivement, c'est très envahi. Mais en soi, ça n'avait pas posé de problème à personne.
Alors, j'ai noté une phrase assez forte du docteur Montfort, qui est médecin psychiatre et qui est, semble-t-il, une référence dans le domaine, et qui dit « Un Diogène aurait besoin de tout, mais ne demande rien ». Ça paraît un peu extraordinaire.
Oui, alors le docteur Montfort est spécialiste autoproclamé du syndrome de Diogène, et c'est vrai que devant l'absence de littérature, il devient effectivement une référence. Alors il y a des choses intéressantes dans ce qu'il a pu définir, mais c'est vrai que nous on le considère peut-être comme un point de départ, et ensuite il y a quand même peut-être plus de nuances à apporter, puisque ce qui revient souvent, c'est la question de la non-demande, donc effectivement ne rien demander. Ne rien demander, en soi, à partir de cette idée-là, on peut se dire qu'est-ce qu'il y aurait à demander, après tout, selon qui il faudrait que ces personnes demandent quelque chose. Et puis après, quand on s'intéresse au fait de ne pas demander, c'est souvent la porte d'entrée, effectivement. Ah, la personne ne demande pas, donc c'est Diogène, donc nous on est alertés sur ces situations. Quand on va rencontrer les personnes, on se rend compte parfois qu'elles ne demandent pas, des fois par méconnaissance. Elles ne connaissent pas les dispositifs auprès de qui elles pourraient demander de l'aide. Et on se rend compte que dès la première rencontre avec elles, dès la première prise de contact, les personnes disent « mais je n'attendais que ça, je n'attendais que vous ». Dans ce cas-là, on ne va pas être dans le refus revendicatif qu'on évoquait tout à l'heure pour le syndrome de Diogène. Une autre façon de ne pas demander de l'aide, c'est d'avoir honte. Effectivement, personne, ça c'est plutôt dans les situations d'incurie, comme le décrivait Delphine, des événements de vie qui font qu'elle se décourage et qu'elle baisse les bras, ou des problèmes de santé, qu'ils soient psychiatriques, une dépression, ou des problèmes de santé physique, font qu'elles ne peuvent plus prendre soin d'elles, prendre soin de leur environnement, et elles éprouvent de la honte face à leur situation et ce qu'elle est devenue. Et dans ce cas-là, effectivement, ça va demander une approche un peu plus douce pour effectivement qu'elle ne se sente pas jugée. À partir du moment où la personne ne va pas se sentir jugée de la situation dans laquelle elle vit, elle va pouvoir faire confiance, et rapidement aussi des actions vont pouvoir être possibles. Donc ça, c'est des situations d'incurie classiques. Une autre façon de ne pas demander de l'aide, c'est d'être méfiant. Que me veut l'autre ? Il peut y avoir un peu de paranoïa, un peu de persécution, mais la méfiance est aussi une attitude qui peut être adaptée dans notre époque actuelle. Pourquoi vous viendrez chez moi ? Pourquoi ? Pour y faire quoi ? Donc là aussi, il y a un travail de réassurance important qui peut être mené. Nous, ce qu'on dit souvent, c'est de montrer patte blanche, de montrer qu'on peut être digne de confiance et qu'on ne veut pas de mal à la personne. Donc d'abord qu'on ne va pas la juger, et qu'ensuite on ne le veut pas de mal. Ça demande beaucoup de temps, beaucoup plus de temps pour que la relation de confiance se fasse. Mais une fois cette confiance établie, la personne va pouvoir formuler des demandes parce qu'elle ne va pas se sentir jugée ni menacée. Et il y a une dernière forme de non-demande qui, là, pour le coup, correspond un peu plus à ce que le docteur Montfort a dit, besoin de tout, mais ne demande rien. C'est ce que nous, on a observé comme le refus revendicatif. Effectivement, la personne refuse toute aide extérieure qui lui est proposée, mais même, va même revendiquer son mode de vie, peut même le théoriser et affirmer en quoi elle tient à vivre comme ça. Et effectivement, là, ça va être beaucoup plus compliqué pour pouvoir entrer en relation et créer une relation de confiance qui puisse déboucher ensuite sur des actions. Donc voilà, à partir juste... Dire « ne demande rien », ça ne suffit pas, parce que ne rien demander, on peut voir quand on le déplie qu'il y a une quantité de significations différentes.
Dans la non-demande revendicative, il y a ce « ôte-toi de mon soleil » de Diogène qui dit bien que là, vraiment, il n'a besoin de personne, mais aussi, la référence à Diogène peut être aussi liée au fait qu'il passait, soi-disant, donc sa journée avec une lampe allumée à la main en disant « je cherche l'homme ». Une chose que nous, on note, c'est que vraiment, l'autre est vécu comme absent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de présence, mais aussi comme impossible à trouver pour entrer en relation. Et notre travail consiste à justement essayer de construire ce qu'on appelle une altérité positive, c'est-à-dire faire la démonstration à l'autre que l'homme existe en dehors de lui, et cet homme, il peut rentrer en relation avec lui.
est-ce qu'il y a quand même une personne de confiance qui vous permet de faire un peu le lien avec, avec ces personnes qui sont touchées par le syndrome de Diogène ou un Curie? Ou bien vous rentrez directement en relation sans pratiquement intermédiaire? Parce que le docteur Montfort, toujours pour le citer, il parle de porteur de panier, c'est-à-dire quelqu'un de confiance. Vincent Clarac.
Effectivement, quand il y a une personne de confiance dans l'entourage immédiat de la personne, souvent c'est elle qui va nous interpeller. Ou alors on va avoir rapidement son contact. Et effectivement, quand elle existe, on s'appuie sur elle pour aller rencontrer la personne concernée. Parce que c'est elle qui va pouvoir nous introduire.
C'est toujours le cas ou il y a aussi un cas où vous venez comme ça?
Non. Quand c'est le cas et qu'elle existe, on s'appuie dessus pour être introduit. Quand il y a des situations où il n'y a personne, et dans ce cas-là, il va falloir qu'on parte de zéro pour faire l'accroche avec la personne. Donc ça peut être, si on a des coordonnées téléphoniques, appeler directement la personne, ou alors si on n'a que son adresse, mais partir à sa rencontre et puis essayer de se donner les meilleurs moyens d'entrer en relation petit à petit.
Une autre citation du docteur Furtos, qui donc est un psychiatre qui travaille beaucoup sur la relation santé mentale, précarité, habitat, et lui dit quelque chose aussi de très très fort. Il dit que ces personnes-là, pour vivre, elles s'empêchent de vivre. On essaie de survivre, et dans la vie, c'est la survie qui compte, et l'effacement.
C'est plus de la survie, effectivement, parce que s'empêcher de vivre, c'est plutôt une forme de jugement ou de regard porté. Mais en tout cas, c'est un mode de vie, c'est de l'ordre de la survie, effectivement. Alors, pour des raisons diverses, on l'a évoqué, des deuils, des ruptures, des pertes impossibles à surmonter, qui font que les personnes développent des mécanismes de défense importants pour mettre à distance et pour retrouver une part de sécurité. Mais c'est vraiment un mode de survie, effectivement. C'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'il y a quelque chose de positif hein, dans la survie. On lutte pour rester en vie. Et une adaptation à des conditions de vie extrêmes qui témoigne vraiment de grandes capacités d'adaptation.
Souvent, on parle, paraît-il, du déni de la personne par rapport à son syndrome. Qu'est-ce que vous en pensez, Delphine ?
Le terme de déni, c'est toujours déni par rapport à la vision de quelqu'un. C'est-à-dire que, en l'occurrence, la vision médicale, éventuellement, qui va dire, ou la vision des voisins, qui va dire, moi, je sens des odeurs, moi, je vois des choses. Et donc, effectivement, oui, on constate que les représentations de la personne ne sont pas les mêmes, parce qu'elle a une autre logique. Par exemple, quand vous vivez depuis toujours au milieu de putrécibles, ça ne sent pas, mais c'est pas qu'elle dénie que ça se sente ou que ça ne sente pas, c'est juste qu'elle ne sent pas vraiment, parce que, tout simplement, notre corps s'habitue à ce qui est présent, et les perceptions sont pas les mêmes pour un voisin qui va passer devant une fois par jour ou pour lui qui est immergé dans ses odeurs, par exemple. Concernant l'accumulation, là aussi, le déni, c'est un questionnement social aussi, c'est-à-dire peut-être que vous, moi, les voisins, le psychiatre vont dire c'est vraiment trop. Le nombre d'objets qui sont présents parce que, par exemple, la fonctionnalité de la salle de bain est entravée, les toilettes ne sont plus utilisables, la cuisine non plus, et donc on peut, nous, penser de notre point de vue que c'est vrai, que c'est trop, que c'est tout à fait logique, et la personne devrait se rendre compte de ça. Sauf que la personne, elle peut très bien vous expliquer que, elle mange dehors, que ça lui est complètement égal de ne pas avoir accès à la cuisine, que les toilettes, c'est pareil, elle vit globalement dehors, et que la salle de bain, elle en fait son affaire aussi parce qu'elle a accès, par exemple, aux toilettes publiques, aux douches publiques. Donc, en fait, c'est aussi une question de logique. C'est un autre monde dans lequel... Donc, le déni, c'est un terme médical. Donc, bien sûr, si on part sur la norme, que devrait avoir cette personne, on va dire, oui, elle est dans le déni. Et ça, c'est pas quelque chose qu'on rencontre dans l'incurie. La plupart du temps, dans l'incurie, le déni n'est pas présent. C'est-à-dire que la personne va se trouver en phase avec vos représentations. Elle va dire « oui, je suis d'accord qu'il y a trop d'affaires, par exemple. Je suis d'accord que je n'ai pas eu le courage de nettoyer, de ranger. » Ce qui n'est pas le cas, selon notre observation, dans les cas du syndrome de Diogène, où effectivement, la logique de la personne, qui est cohérente hein, dans son fonctionnement et dans ses représentations, est effectivement très éloignée de la nôtre, et c'est ça qu'on peut appeler le déni.
Quelle est la relation avec la famille, le rôle de la famille chez ces personnes?
Ça dépend des situations. Ce qu'on observe en règle générale, c'est que ce sont des personnes qui sont très isolées, On peut dire que ben, elles ont fait le vide aussi autour d'elles, ou que les proches qui étaient présents se sont épuisés, ont tenté des choses pour améliorer la situation, mais que effectivement, ce que ça peut renvoyer à des enfants ou à des parents qui voient leur enfant vivre dans des conditions de vie qu'ils estiment dégradées, ce que ça peut renvoyer est tellement violent que après avoir fait plusieurs tentatives, ben les proches aussi se protègent parce que c'est trop dur de voir, voilà, de voir son parent vivre dans de telles conditions et de voir qu'on arrive à rien faire. Ben, il y a une forme de protection des proches qui ben, se retirent aussi, donc ça c'est lors de la protection. Il peut y avoir aussi des conflits familiaux qui font que vraiment les liens sont très distendus. On observe souvent vraiment un fort souci, une forte préoccupation des proches, souvent les enfants. Mais effectivement qui sont vraiment très, très démunis par les années en fait, de tentatives et d'échecs selon eux. Leur incapacité à comprendre en tout cas le mode de vie ou ce que vivent leurs parents.
Et les familles sont renvoyées comme Alexandre le Grand à l'impuissance, c'est-à-dire qu'Alexandre le Grand avec tout le pouvoir qu'il pourrait mettre au service de Diogène, il n'arrive à rien faire. Ben, c'est un petit peu la même réponse que se voient opposer les familles, c'est-à-dire qu'elles essayent avec tout le pouvoir qu'elles peuvent avoir, toutes les ressources qu'elles peuvent avoir, mais elles sont confrontées à cette impuissance.
On dit souvent que les femmes sont plus touchés que les hommes.
C'est pas quelque chose qu'on observe. Nous, on peut parler de ce qu'on fait, en tout cas sur le terrain. Je crois que dans les personnes qu'on accompagne, c'est moitié-moitié. Dans la littérature, oui, il est parlé de plus de femmes que d'hommes. Nous, c'est pas ce qu'on observe, en tout cas.
Fais-tu passer, chien de vie, chien de vie. Moi qui n'avais rien demandé, oh, chien de vie, chien de vie, chien de vie. Mais par où me fais-tu passer, chien de vie, chien de vie, chien de vie. Moi qui n'avais rien demandé, comme s'il fallait tout oublier. À chaque fois que tout s'effondre, comme s'il fallait recommencer. Et surtout ne jamais confondre son présent avec son passé. Et puis courir jusqu'à la tombe, en faisant semblant qu'on est pressé. En slalom entre les bombes, celle qu'on a soi-même placée. Celle des autres, celle du monde, qui finiront par exploser. Ça n'est qu'une question de secondes, et donc dans lequel on est placé. Hein, chienne de vie, chienne de vie, chienne de vie. Mais par où me fais-tu passer, chienne de vie, chienne de vie, chienne de vie. Moi qui n'avais rien demandé, hein, chien de vie, chien de vie, chien de vie. Mais par où me fais-tu passer, chien de vie, chien de vie, chien de vie. Moi qui n'avais rien demandé. S'immuniser pour un nouveau pouvoir se fondre dans la masse des civilisés, dans laquelle les cons abondent, les cons aigris, les cons grisés, les cons vernis, les cons frisés, les cons groguis, les cons rasés, et un con à chaque seconde, une nouvelle variété qu'il nous faudrait apprivoiser. Hein, chienne de vie, chienne de vie, chienne de vie, mais par où me fais-tu passer? Chienne de vie, chienne de vie, chienne de vie. Moi qui n'avais rien demandé, hein. Chienne de vie, chienne de vie, chienne de vie. Mais par où me fais-tu passer? Chienne de vie, chienne de vie, chienne de vie. Moi qui n'avais rien demandé.
comme s'il fallait laisser glisser tous ces sentiments qui nous plombent, comme s'il fallait les effacer. Alors qu'on a le cœur qui gronde et qu'on voit bien qu'il est blessé, même si on a déjà trouvé la blonde qui nous permettrait d'oublier la profondeur à laquelle, oh, chienne de vie, chienne de vie, chienne de vie, mais par où me fais-tu passer? Chienne de vie, chienne de vie, chienne de vie, moi qui n'avais rien demandé, oh, chienne de vie, chienne de vie, chienne de vie, mais par où me fais-tu passer? Chienne de vie, chienne de vie, chienne de vie, moi qui n'avais rien demandé, comme s'il fallait tout essayer. Toutes celles qui passent sur la route et toutes les déshabillées pour s'économiser du doute qu'on aurait voulu y goûter. Juste un petit peu, juste quelques gouttes, pas trop pour pas s'habituer.
Pour parler de façon donc maintenant du terrain et de vos interventions, est-ce que d'abord vous avez une idée de combien de personnes à Marseille donc souffrent de ce syndrome de Diogène et d'incurie? Est-ce qu'on a des chiffres? Est-ce que les statistiques existent ou pas du tout? Timothée.
Non, nous on est mis au courant des situations, comme on l'a dit, qui à un moment sont signalées, donc dérangent. Comme l'a dit tout à l'heure Delphine, il y a des situations qui sont découvertes post-mortem, par exemple, on se rend compte que la personne vivait, mais n'a jamais été jusqu'à déranger les gens. Donc, nous, on voit une petite surface de l'iceberg. Et il y a probablement de très nombreuses situations de ce genre, alors à Marseille et partout en France, hein, puisque il n'y a pas de raison qu'il y ait de limites et de frontières à ce syndrome. Et donc, c'est impossible de savoir. Nous, on a notre petite répartition de situations desquelles on s'occupe, et puis il y en a en continu, hein, qui nous sont présentées, donc il y en a en permanence qui sont découvertes, mais impossible de savoir quel est le quota.
Ce qui rend d'autant plus difficile, c'est pour ça qu'on insistait tout à l'heure sur une différenciation entre l'incurie et le syndrome de Diogène, c'est que tout est mis dans le même sac, donc les chiffres auxquels on peut avoir accès sur Marseille vont provenir du service d'hygiène de la mairie, avec qui on travaille en collaboration. Mais malheureusement, ces chiffres-là, donc, ce sont des plaintes, donc des plaintes de voisinage, qui parfois ne sont pas fondées, parfois le sont, mais ça ne dit rien de la cause, en tout cas des nuisances, puisque les plaintes, ça va être sur des nuisances. Et les nuisances, ben, ça peut provenir de situations d'incurie, de personnes qui ont des problématiques de santé qui ne peuvent plus entretenir leur logement. Ça peut provenir de personnes qui présentent des pathologies psychiatriques, donc ça va être une autre raison, et qui, de fait de leur pathologie psychiatrique, ne vont pas pouvoir entretenir leur logement ou vont causer des troubles du voisinage. Et en fait, on se rend compte que les plaintes vont plus être sur les troubles de voisinage que sur les situations d'incurie dans le logement. Et ensuite, il y a une partie de ces plaintes qui peuvent être faites sur de l'accumulation, mais l'accumulation n'est pas forcément aussi n'a pas forcément pour origine le syndrome de Diogène. Donc au final, puisqu'on parle de syndrome de Diogène, ce qu'on observe, nous, mais sans avoir pu faire la part des chiffres, parce que ce n'est pas nous qui tenons les comptes, le syndrome de Diogène concerne une petite part des situations qui nous sont orientées et pour lesquelles il y a des plaintes.
Oui, Delphine.
Et pour répondre plus généralement à la question, non pas simplement sur Marseille, mais sur la prévalence en général, c'est-à-dire le nombre de personnes qui sont concernées dans la population globale, en fait, la problématique numéro un vient de la définition du concept. C'est-à-dire que comme dans la littérature, les auteurs n'ont pas réussi pour l'instant à faire consensus pour trouver une définition sur laquelle ils s'entendent, chacun va proposer une prévalence qui correspond à sa description. Et en fonction des auteurs, ben, on va trouver des choses très très variables, puisque du coup, évidemment, on ne sait pas si on mesure des carottes, des poireaux, des navets, des légumes. Voilà. Donc du coup, ben, on peut se retrouver avec certains auteurs, par exemple Catherine Wong, elle dit qu'il y en aurait 1 sur 10 000, par exemple. Dans le DSM, je crois, ils disent 5 sur 100 000. Donc, c'est pour dire que le...
DSM, c'est quoi ?
Le DSM, c'est un peu ce qu'on va appeler la Bible du psychiatre. C'est l'Association américaine de psychiatrie qui publie, et qui a publié en 2013 son dernier ouvrage, on va dire, de référence, qui est les catégorisations psychiatriques. Donc, quelles sont les maladies mentales qui sont répertoriées dans le monde et qui sont utilisées pour faire des recherches. recherche ensuite. Et donc maintenant, il y a une catégorie qui n'est pas le syndrome de Diogène, mais qui est pour nous ce qui s'en rapproche le plus, qui s'appelle la syllogomanie ou thésaurisation pathologique. Et sur ce critère-là, c'est pour vous dire, vous voyez, encore une fois, là, c'est encore un autre terme. Voilà, donc Diogène, pas Diogène, combien il y en a? Pour l'instant, on ne sait pas encore répondre à ces questions. Nous, ce qu'on constate, c'est que bien qu'on ne sache pas bien le définir, bien qu'on ne sache pas dire combien il y en a, on peut travailler quand même et on peut agir sur un plan avant tout social, parce que c'est, on le disait tout à l'heure, sur le plan social que d'abord ces situations alertent, puisque c'est l'environnement qui s'inquiète et qui dit il y a quelque chose à faire, il faudrait faire quelque chose, cette personne devrait demander quelque chose.
Alors justement, comment vous intervenez? Est-ce que vous avez un protocole d'intervention? Donc Vincent, vous êtes éducateur, Delphine, vous êtes psy et Timothée, vous êtes infirmier. Est-ce que vous intervenez ensemble, chacun à son tour? Voilà, comment ça se passe, Vincent?
Pour évaluer les situations, parce que quand on nous alerte sur une situation, on procède à une évaluation pour voir effectivement ce qu'il en est, quoi proposer, et puis si ça dépend de nous. On y va toujours à deux, donc en binôme, pour faire ce travail-là. Et par la suite, une fois que l'accompagnement se met en place, on conserve le travail en binôme. C'est quelque chose que nous, on a institué, parce qu'on en voit vraiment l'intérêt. Donc ce sont des binômes tournants. On est 5 dans l'équipe, et chaque fois on se déplace à 2, et puis ça tourne toutes les semaines en gros. Donc la personne est amenée à rencontrer tous les membres de l'équipe dans une rotation comme ça, qui est aléatoire. Ça permet de combiner nos regards qui sont différents de par nos formations d'origine, mais également nos sensibilités. Et ça permet aussi de pouvoir utiliser, quand on en a besoin, les compétences spécifiques de chacun. S'il y a une question plus de l'ordre de la santé, ben, Timothée et notre médecin psychiatre vont être en première ligne. Pour des questions sociales, administratives, ça sera notre conseillère en économie sociale et familiale et moi-même. Pour les autres questions d'ordre du soutien psychologique, ben ça sera Delphine. On a différentes combinaisons comme ça entre membres de l'équipe, mais la force en tout cas du travail, c'est d'être à deux toujours auprès des personnes.
Delphine?
Oui, en fait, s'il y a quelque chose qui nous a tous frappés, je pense, face à ces situations, c'est leur complexité. Très loin de ce qu'on peut voir quand on parle de Diogène dans les médias, où on nous présente quelque chose de très simple et qui a l'air d'être toujours la même chose. La réalité du terrain, c'est tout le contraire. C'est que ce sont des situations extrêmement complexes, très hétérogènes, où on ne peut pas d'emblée comprendre ce qui se passe. Donc effectivement, les évaluations, elles nécessitent d'être psychosociales, médico-psychosociales, d'être vraiment sur tous les plans, et elles méritent d'être faites dans le temps. Et avec effectivement ce que disait tout à l'heure Vincent, la multiplicité des regards pour essayer d'embrasser au mieux cette complexité et pas partir sur, tiens, ça se rapproche d'un diagnostic, comme je disais tout à l'heure, du DSM, qui est donc le répertoire de la psychiatrie, et de dire, il suffit de soigner cette personne, parce que c'est pas comme ça que ça marche. En réalité, notre façon d'engager la relation est d'abord de l'engager là où elle se trouve, c'est-à-dire socialement, puisque c'est socialement que ça se manifeste, c'est pas la personne qui se manifeste à nous, c'est l'environnement. Et donc notre façon de travailler consiste à essayer d'être au plus près de cette complexité, et c'est pour ça qu'on a mis en place ces binômes tournants, parce que ça nous permet de ne pas arriver avec les biais qu'on peut avoir chacun de nos métiers, mais au contraire de s'ouvrir à cette complexité par le regard que les autres nous apportent.
Et vous, en tant que psychologue, est-ce que ces personnes parlent facilement? Quel est votre objectif? Est-ce que parfois vous vous isolez avec elles, chez elles, pour une séance de psy classique? Ou est-ce que vous les laissez venir? Vous êtes toujours en binôme, mais il y a un moment où vous vous permettez de vous isoler pour essayer de l'écouter, de la faire parler sur son histoire?
Tous les modes existent, puisqu'en fait, on essaye d'être au plus près du besoin de la personne et au plus près de sa complexité. Donc, ça veut dire qu'on s'adapte et on se moule. Donc, si effectivement, à un moment donné, on se retrouve à deux dans une situation et qu'il y a une possibilité soit de proposition de la personne, soit où moi, je sens qu'il y a peut-être une ouverture et que je veux faire une proposition, il y a toujours une possibilité pour que je m'écarte, effectivement, que je m'adresse directement à la personne, et voir que je propose, ça arrive aussi, à venir seul pour avoir un temps qui est plus propice à l'échange, mais au même titre que parfois mes collègues proposent de venir seul pour régler par exemple une question de budget ou une question de droits sociaux et qui le font avec la personne juste pour mieux se concentrer.
Et vous Timothée, c'est quoi votre rôle exactement quand vous êtes donc face à une situation? Est-ce que c'est purement médical? Vous devez soigner quel type de problème, ou même enfin, au niveau physique aussi.
Quand on arrive dans ces situations, on se rend compte qu'il y a une situation qui s'est dégradée depuis longtemps, des mois, des années, et elle s'est dégradée en tout point. C'est pour ça aussi que nous, on travaille en pluridisciplinarité, parce que une fois qu'on peut agir avec la personne, on va agir un petit peu sur tous les domaines dans lesquels il y a des lacunes. Donc le social, l'administratif et la santé. Certaines personnes n'ont plus de médecin traitant depuis des années. Des pathologies non traitées, des pathologies même non découvertes. Donc il va y avoir une part d'observation clinique, diagnostique, et ensuite une part d'accompagnement et de coordination pour pouvoir remettre ces gens dans leur parcours de santé. Et on va pouvoir ensuite contacter des infirmiers libéraux, des kinés, on passe par des dispositifs d'aide à la coordination pour pouvoir justement trouver des professionnels de santé, ce qui n'est pas chose aisée nulle part, mais dans Marseille non plus, pour pouvoir ensuite intervenir au profit de ces gens et les remettre dans leur parcours de santé.
Quelque chose d'important au niveau du fonctionnement de l'équipe et puis même des métiers de chacun, c'est que le fait de fonctionner en binôme tournant fait que il y a des fonctions en fait qu'on va tous occuper, et il y a des fonctions dans lesquelles on va prendre le relais de notre collègue qui est censé être le spécialiste de la question. C'est-à-dire, il y a des démarches de santé qu'initie Timothée et que n'importe quel membre de l'équipe va pouvoir prendre le relais. Donc il y a vraiment de la transmission en termes de compétences. Il y a un socle en tout cas commun. De la même manière que l'approche de soutien psy, je pense qu'on l'a tous dans l'équipe. Delphine a beaucoup plus de compétences dans ce domaine, mais en tout cas, il y a quelque chose qui est transversal des compétences. Au niveau social, c'est pareil. C'est pas forcément les travailleurs sociaux qui vont faire les démarches ou aller accompagner aux impôts. Ou quoi. Tout le monde, en tout cas dans l'équipe, peut le faire. Voilà, on va vraiment être appelé sur nos compétences métiers, sur vraiment des actes plus techniques, spécifiques. Mais sinon, ça tourne. Un exemple qu'on dit souvent, il y a un décalage en fait important à établir par rapport à ce qu'on attend de nous, de notre métier habituellement. Il y a forcément un décalage, un pas de côté à faire. Un exemple dont on parle souvent, c'est notre médecin psychiatre qui fait ses consultations en passant la serpillière, par exemple. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de médecins psychiatres qui le font, mais en tout cas, le moment s'impose comme cela, et c'est le moment de faire sa consultation, et on est en train de faire le ménage, il fait le ménage, et en même temps, il se passe quelque chose avec la personne. Donc voilà, il y a vraiment des tâches qui sont transversales.
J'ai lu aussi qu'il y avait un aspect négociation. Qu'est-ce que ça veut dire, donc, négocier quand vous rencontrez ces personnes? Ça signifie quoi exactement?
Négocier, ça veut dire qu'on vient, comme on disait tout à l'heure, sur une interpellation de l'extérieur, de la société, d'un voisin, d'un bailleur, peu importe, qui lui a une demande. Hein, la demande, c'est que la nuisance s'arrête, que le risque n'existe plus, ou pour le parent, qu'il puisse y avoir une mise en contact avec un médecin, que sais-je. Donc, il y a une demande. Nous, on arrive, on est porté évidemment par cette demande au départ, et la négociation, l'émission, elle intervient à partir du moment où on est dans la rencontre avec la personne pour qui on est là, parce qu'elle aussi, elle a des demandes. Contrairement à ce que disait Montfort sur « il ne demande rien », c'est faux. Il demande plein de choses qui sont évidemment très différentes de la première demande qui nous a été faite dans la fiche qui nous a été envoyée. Donc la négociation, elle intervient déjà à ce niveau-là, parce qu'il va nous falloir négocier entre, par exemple, un bailleur qui dit « moi, si ça continue, je vais devoir l'expulser », et puis une personne qui est dans les lieux et qui dit peut-être « mais moi, je veux rester ». Donc la négociation, ça va être de trouver un moyen d'entrer en relation et d'entrer en relation positive qui ne soit pas vécue comme une intrusion négative pour la personne, et aussi bien vécue par ceux qui nous ont envoyés pour comprendre qu'on est au travail et qu'on soutient une démarche qui va dans le bon sens pour tout le monde. Donc c'est forcément en permanence des situations de négociation de ce point de vue-là, mais il y a aussi un autre aspect qui est propre à notre façon de travailler, qui est la réduction des risques. C'est un terme générique qu'on utilise en addictologie pour dire finalement une chose assez simple, c'est que quand quelqu'un a une addiction, et parfois le syndrome de Diogène est comparé à une addiction, il y a plusieurs façons de travailler, mais la façon de travailler qui semble être la plus efficace, ce n'est pas de chercher à faire arrêter la personne du jour au lendemain, mais c'est plutôt de faire avec elle en fonction de ce qu'elle peut au moment où elle peut pour réduire les risques sur sa santé. Donc l'idée, c'est pas d'abolir sa consommation, mais de faire que la consommation qu'elle a puisse être compatible avec ses désirs de santé qu'elle a également d'autre part. Et c'est là aussi une négociation, puisqu'on a la même avec les personnes qui ont ce syndrome. Oui, vous voulez rester chez vous, mais en même temps, vous êtes en risque d'expulsion si, par exemple, dans cette partie de votre domicile qui semble commencer à s'écrouler, vous ne faites rien. Donc, on va négocier avec la personne sur ce qu'elle est prête à accepter de changement sans radicalement changer son comportement ni son habitat.
Et qu'est-ce que ces personnes demandent, en se basant sur des exemples? Est-ce que vous avez en tête comme ça des demandes?
La première demande, c'est un logement. Alors ça peut être un logement plus grand, par exemple, pour pouvoir mettre leurs affaires et pour pouvoir en disposer mieux, ou un logement plus fonctionnel parce qu'elles habitent au cinquième étage et que c'est sans ascenseur et que c'est difficile de transporter leurs affaires. Mais bien souvent, la demande au départ est une demande de logement. Et ou une demande autour du logement.
Il peut y avoir des demandes aussi de l'ordre, d'ordre technique, des personnes dont l'installation électrique est défaillante et qui demandent à ce qu'elles puissent avoir de l'électricité dans toutes les pièces. C'est là où on en revient à la négociation, par exemple. Pour avoir l'électricité dans toutes les pièces, il faut l'intervention d'un électricien. Pour l'intervention d'un électricien, il faut que les pièces soient accessibles. Pour que les pièces soient accessibles, qu'est-ce que vous êtes prête à faire finalement ? Donc la négociation est là. Qu'est-ce que vous êtes prêt à faire pour qu'il y ait une réponse à votre demande? Même si la demande que la personne ait l'électricité dans toutes les pièces, ce n'est pas la demande sociale, ce n'est pas la commande qui est faite, ce n'est pas la préoccupation, mais en tout cas, ça peut être la porte d'entrée pour qu'il y ait des actions, en tout cas dans le logement.
Est-ce que vous êtes limité dans le temps quand vous traitez un cas? Vous donnez comme ça 6 mois, 1 an, et vous êtes obligé de passer à d'autres personnes qui, entre guillemets, attendent? Est-ce que vous fixez des limites?
Il n'y a pas de limite de temps pour la bonne et simple raison qu'on ne maîtrise pas le temps nécessaire pour entrer en relation. Ça peut prendre des mois, ça peut prendre des années. Donc,
Vous avez un cas comme ça? Ça a pris beaucoup, beaucoup de temps. Vous pouvez peut-être en parler?
La situation d'un monsieur où on a mis 1 an et demi avant de pouvoir le rencontrer. On a fait différentes tentatives. Il était dans un refus important de nous voir. On s'est appuyé sur la personne de confiance. Il y avait une personne de confiance dans son entourage qui a travaillé pendant 1 an et demi à pouvoir nous introduire avec des refus. Et puis quand ça a été le moment, donc ça a pris 1 an et demi, on a pu rencontrer cette personne. Et c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, rapidement, des actions ont pu être mises en place. Mais vous voyez, ça faisait 1 an et demi, alors on peut dire qu'on n'a pas travaillé, sauf qu'en fait, ça travaillait. Et ensuite, il y a le temps de la rencontre, mais ensuite, il y a le temps nécessaire à mener des actions auprès de la personne, donc soit des actions de santé au niveau social ou dans le logement, qui peuvent prendre énormément de temps vu la dégradation qui était présente pendant des années. Et ensuite, une fois que la situation s'améliore pour la personne, ben, y a un temps important aussi afin de trouver les relais nécessaires pour que notre équipe puisse se retirer. Et ça peut prendre aussi des mois, voire des années. Le facteur déterminant, c'est la présence. On en revient encore une fois à une problématique sociale. C'est ce que nous disent les personnes aussi, c'est que vous avez été présent. C'est ce qui compte le plus pour eux. C'est pour ça que pour que l'équipe puisse se retirer après des années d'accompagnement, ben, il faut que la présence qui va être mise en place une fois que l'équipe se retire soit équivalente. C'est ça qui est plus difficile et c'est pour ça que les fins d'accompagnement sont étalées dans le temps afin de passer un relais qui soit suffisamment sécurisant, une présence suffisamment sécurisante pour que les personnes puissent se maintenir dans l'état de santé qui est le leur.
L'idée, c'est de les sortir de leur isolement, de la coupure dans laquelle ils se sont mis, c'est ça ? Et ensuite, qu'ils retrouvent une sorte de sociabilité ?
On arrive à créer, à effectivement recréer une sorte de sociabilité. Au bout d'un moment, ça peut prendre donc du temps non déterminé, suivant les personnes, ça peut prendre des années, mais à fréquence régulière, à raison d'une fois par semaine en général, on arrive à créer ce lien qui est important. Les gens même nous attendent à ce rendez-vous au bout d'un moment. C'est quelque chose, c'est une ouverture vers autre chose, des relais qu'on va pouvoir essayer de mettre en place par la suite, qui peuvent être de plusieurs ordres, hein, des infirmiers libéraux comme on disait tout à l'heure, ça peut être des aides ménagères, ça peut être un accompagnement social. Quoi qu'il en soit, il faut que ça reste régulier et fréquent. Et ce maintien de présence, de sociabilité, va pouvoir permettre à la personne de se maintenir aussi dans l'ordre dans lequel on a pu atteindre l'équilibre socialement attendu, quoi.
Tout le travail, dans un premier temps, c'est de pouvoir avoir une accroche et de créer une relation de confiance. Et ce qu'on observe souvent, c'est que on restaure petit à petit une altérité positive, c'est-à-dire que l'autre n'est plus vécu comme intrusif ou une menace. Ou une persécution, mais petit à petit, l'autre ne me veut pas de mal. Et une fois que cette petite graine est là, nous, on essaie de la faire pousser, de la faire fructifier, et donc d'étendre, en tout cas, cette altérité positive à d'autres personnes, d'où le passage de relais progressif.
Tout à l'heure, vous parliez de porteur de panier. Au bout d'un moment, c'est nous. On devient le porteur de panier. Et donc, lorsqu'on fera ce fameux passage de relais à d'autres organismes, on va le faire avec eux dans un premier temps, dans un premier rendez-vous, c'est sûr, et peut-être sur plusieurs autres interventions pour que la confiance, pour qu'il y ait un passage du relais de la confiance sur ces gens. Une fois qu'il aura été établi, qu'on aura vu que le lien est né, est créé et existe, eh bien, on va pouvoir songer à ce que la personne quitte notre dispositif dans toute confiance.
Il y a une évolution positive ou est-ce que parfois c'est plus compliqué que vous l'imaginez ? Delphine.
En fait, je voulais revenir sur la question d'avant. La question d'avant, c'était la durée de l'accompagnement, les limites et la concurrence avec les personnes qui attendraient éventuellement une place. C'était ça. Des limites, en fait, on n'en a pas structurellement, puisqu'on n'est pas dans un dispositif qui nous dit vous devez accompagner les gens pendant tant de temps et ensuite passer à quelqu'un d'autre. Et on n'a pas non plus d'indicateur qui serait à partir du moment où, je ne sais pas, il a un médecin traitant, vous pouvez vous retirer de la situation. Donc, ça veut dire que les limites posées sont celles de l'équipe, c'est-à-dire ce sont nos limites à nous. C'est à partir de notre évaluation ou de notre épuisement aussi, parce que parfois on arrive dans des situations où effectivement on est comme tout le monde, hein, comme Alexandre le Grand, on est impuissant. Voilà, et on ne fait que le constat de l'impuissance, de notre impuissance. Et ensuite, pour ce qui est de la problématique de est-ce que ça empêche d'autres personnes de rentrer dans le dispositif, pour l'instant, non. Nos accompagnements, on a réussi à les mener de concert, c'est-à-dire que en fait, si une situation nouvelle arrivait, on arrivait à soit outiller les partenaires pour qu'ils puissent s'occuper de la situation en attendant si nous, on ne pouvait pas s'en occuper. Enfin, on a toujours trouvé des solutions pour que ça soit possible de prendre les situations qui nous étaient présentées et les traiter, soit en direct intensif, soit par le biais du réseau qui travaille aussi avec nous. Est-ce que ça marche ? Alors la question est de savoir qu'est-ce qui marche. Parce que si ce qui marche, c'est que une personne qui accumule ne va plus accumuler. C'est pas tellement un critère pour nous, parce qu'en fait, nous, on s'en fiche que la personne, elle accumule, elle accumule pas. Ce qui nous intéresse, c'est finalement que socialement, il n'y ait plus de demandes, finalement, que socialement, les choses soient apaisées. Et parfois, les choses sont apaisées juste parce qu'on va aller dialoguer, en fait, avec l'entourage qui va comprendre que, en fait, la personne, elle a une problématique, mais qu'on s'occupe d'elle. Et auquel cas, ça va s'arrêter comme ça. Mais il y a aussi une grosse différence d'accompagnement entre donc, ce qu'on définit, nous, comme des situations d'incurie où la personne, en fait, elle a accumulé, mais de manière passive, parce qu'elle est dans une incapacité ou physique ou psychique, et le syndrome de Diogène, où il y a vraiment une volonté, une revendication et une action très forte, par exemple, de collecte dans les poubelles tous les jours, etc., qui fait que l'accumulation est très forte. Ce sont deux situations différentes. On va dire que dans les situations d'incurie, on va dire ça un peu entre nous, mais pour nous, c'est des situations faciles. La plupart du temps, il y a bien sûr des situations qui sont plus complexes que d'autres et qui nécessitent plus de temps que d'autres et plus de compétences, de savoir-faire. Mais globalement, on a tendance à dire que c'est des situations où on a un très grand espoir sur le fait que la personne peut revenir à un état d'avant. C'est-à-dire qu'elle a été incurique parce que, par exemple, elle a fait une grande dépression. Et à la suite de cette grave dépression, elle n'a plus ni la capacité physique ni psychique de s'occuper de son intérieur. Elle l'a elle-même déploré, elle en a eu honte. Quelqu'un est venu frapper à sa porte, lui a dit « on vient vous voir parce qu'on s'inquiète pour vous, il y a des odeurs ». Et elle va dire « enfin, vous êtes là ». Et du coup, elle va être partie prenante très rapidement pour qu'on débarrasse avec elle. Et au fil du temps, très rapidement, on va pouvoir dire « on a réussi » dans le sens de sa demande à elle qui est « j'avais besoin de débarrasser tout ça, j'y arrivais pas ». Et en fait, on a réussi dans le sens où maintenant elle va avoir des infirmières à domicile, maintenant elle va avoir des aides à domicile, et que donc on peut se retirer de la situation et on va dire on a réussi. Et en revanche, les situations que nous on qualifie effectivement de syndrome de Diogène, où là, les intrications entre la volonté de la personne et sa souffrance réelle à se séparer des objets, sa volonté d'en accumuler d'autres, est telle qu'on peut se retrouver très impuissant et épuisé. Et c'est là où la limite de l'équipe, au bout d'un moment, peut arriver en disant il faut qu'on fasse une pause aussi dans cet accompagnement parce qu'on n'arrive à rien. Et donc, c'est là où, par exemple, on fait des points d'étape, on va rencontrer la famille, on va faire état de notre impuissance, on va essayer de voir quelles sont les autres ressources, les autres moyens d'accéder à cette situation pour la faire évoluer.
Bien, je vous remercie donc Vincent Clarac, éducateur spécialisé, Delphine Lissajou, psychologue, et Timothée Rérol, infirmier, de l'équipe Diogène et Incurie, de la coordination marseillaise en santé mentale et habitat. Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Merci, au revoir.
Vous venez d'écouter Voix Marseillaise, une émission de David Acoum. Merci à Sidi de Radio Galère et je vous dis à bientôt. Au revoir.